Martin Kopp, bonjour.
Bonjour.
Martin Kopp, vous êtes chargé de plaidoyer pour la justice climatique pour la Fédération luthérienne mondiale. Et le mois dernier, on parlait de différents enjeux sur le climat. Alors, vous partez à Lima, au Pérou, pour cette prochaine étape de la conférence climatique de l'ONU. Et c'est une étape vraiment cruciale.
Oui, effectivement. Alors, le processus des négociations de l'ONU est tendu vers l'an prochain, décembre 2015, à Paris, où nous devons signer le premier traité universel, c'est-à-dire avec tous les pays, qui devrait nous permettre de rester sous la barre des 2 degrés Celsius. Donc ça, c'est l'objectif, c'est l'horizon, ce vers quoi on travaille. Lima, c'est la dernière conférence annuelle de l'ONU sur le climat avant celle de Paris. Donc elle est extrêmement importante, si ce n'est même plus importante que celle de Paris, puisque doit en sortir le brouillon du traité. Et en fait, quand Paris s'ouvrira, le premier jour sera quasiment déjà joué en fonction de ce qui se passe maintenant.
Alors concrètement, ces négociations, je suppose, ont un certain nombre de volets. J'imagine que la première préoccupation, c'est effectivement comment on peut arriver à ces fameux 2 degrés, comme vous le disiez tout à l'heure.
Exactement. Le premier enjeu dans ces négociations est ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire le fait de baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique futur avec cet objectif, rester sous la barre des 2 degrés Celsius. Ça veut dire que chaque pays dans le monde doit s'engager soit à atteindre un plafond de ses émissions, soit à les réduire. L'Union européenne, très récemment, s'est engagée, d'ici 2030, à les réduire d'au moins 40%. Nous, on espère que ce sera plus, parce que ce n'est pas un objectif très ambitieux, mais c'est un premier pas. Et tous les pays du monde doivent s'engager sur ce point-là, vers Paris l'an prochain.
Mais les dégâts sont déjà là.
Effectivement, et c'est la raison pour laquelle un deuxième grand bloc des négociations et les pays en voie de développement souhaitent qu'ils fassent partie du traité de Paris, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Bien sûr, il y a du changement climatique dans le futur qui va dépendre de nos émissions et donc de l'atténuation, mais il y a aussi du changement climatique qui a déjà lieu et qui est déjà dans les tuyaux. Hein, vous savez qu'entre le moment où on émet du carbone dans l'atmosphère et où ce carbone réchauffe la Terre et a un impact sur nos sociétés, il y a plusieurs années qui se passent. Donc aujourd'hui, même si on arrête d'émettre, il y aura encore un réchauffement de 0,3 à 0,7 degrés. Donc il faut s'adapter à ça. Les animaux s'y adaptent. On sait déjà que certaines espèces ont migré, hein, sont montées quelques kilomètres plus au nord. Ben, dans les sociétés humaines, il nous faut faire de la même façon. Un exemple très concret, on sait que le niveau des mers va augmenter. Eh bien, lorsqu'on planifie la construction de nos villes, il faut avoir ça en tête et pas mettre des maisons là où il faut être inondé. C'est un exemple. Les Pays-Bas mettent déjà des digues pour lutter contre le niveau de la mer.
Je pense que même avec la meilleure volonté du monde, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des conséquences sur les dommages dus à ce changement climatique.
Effectivement, même si on est le pays le mieux préparé au monde et si on s'adapte, si on adapte nos villes, nos sociétés, nos modes de vie, il y aura tout de même des conséquences qu'on ne pourra pas éviter. Le meilleur exemple, c'est dans les pays qui souffrent de cyclones ou de typhons. Même si vous êtes prêt, que vous avez répété les cas d'urgence, eh bien, quand le cyclone arrive, ça fait quand même des pertes et des dommages, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans votre pays. Et la demande des pays qui sont victimes de ces événements météorologiques extrêmes, c'est que les pays du Nord aident financièrement à couvrir au moins une grande partie de ces pertes et dommages qui arrivent quoi que l'on fasse.
Alors, vous avez évoqué ces différents aspects pour cette conférence de Lima. Est-ce que concrètement, au niveau financier, on va aller jusqu'à vérifier que, au niveau économique, au niveau des chiffres, c'est réaliste ?
Vous avez raison. La finance est un enjeu qui se retrouve dans les trois que l'on vient d'évoquer, donc l'atténuation, l'adaptation et les travaux sur les pertes et dommages, parce que toutes ces actions demandent de l'argent et beaucoup d'argent. Un des grands outils pour financer, c'est ce qu'on appelle le Fonds vert pour le climat. Et l'objectif est d'obtenir 100 milliards de dollars annuels de capitalisation en 2020.
Alors 100 milliards de dollars, peut-être ça peut sembler énorme hein, à l'échelle personnelle ou peut-être même à l'échelle d'un pays. Mais est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un chiffre qui nous permet de mieux comprendre à l'échelle mondiale si 100 milliards c'est quelque chose de réaliste ou quelque chose de complètement utopique ?
Oui, c'est vrai que pour nous, avec nos petits budgets, 100 milliards, ça semble un chiffre mirobolant. En réalité, lorsque vous regardez quels sont les subventionnements aux énergies fossiles actuelles, on est à 500 milliards de dollars par an pour les énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon, etc. Ça signifie, et dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire dans les pays riches, si on prend juste ce groupe-là de pays, on est déjà à 90 milliards de
c'est
dollars.
C'est-à-dire quasiment le montant demandé. Quoi.
Quasiment sans. Donc en fait, ce dont on a besoin, c'est d'opérer, de réaiguiller nos financements, de les retirer des énergies fossiles et de les mettre vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
Est-ce que, avec tous ces éléments, est-ce que vous êtes confiant? Vous pensez qu'on peut effectivement faire quelque chose?
On peut faire beaucoup de choses. Il y a dans les 15 derniers jours eu un certain nombre d'annonces, notamment des États-Unis, notamment de la Chine, notamment du Japon, sur à la fois les réductions de gaz à effet de serre, mais aussi la contribution à ce fonds vert pour le climat, qui place une atmosphère positive dans le cadre des négociations. Donc diplomatiquement, on est bon. En revanche, lorsqu'on regarde les chiffres qui sont sur la table actuellement, bon, le chiffre qu'a donné les États-Unis, c'est de réduire leurs émissions de 26 à 28% d'ici 2025 par rapport au niveau de 2005, et qu'on fait les calculs, avec ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, on ne reste pas sous les 2 degrés Celsius. Donc, on a besoin d'augmenter l'ambition encore d'un point de vue chiffré. Avec les engagements actuels des pays, on va y arriver.